Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans cette émission qui suit les derniers quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est l'exploit pour Monaco, première équipe de France à se qualifier en demi-finale de la compétition européenne, première depuis Lyon. En 2010, lorsque Lyon était encore champion de France. Par contre, il n'y a pas eu de miracle à Barcelone. À Barcelone, où les Blaugrana n'ont inscrit aucun but, alors qu'il leur en fallait au moins trois pour réussir à arriver au moins aux prolongations et à, qui sait, éliminer la Juventus. Nous avons donc le nom des quatre qualifiés de la compétition et des quatre équipes encore en Ligue des Champions qui se sont ajoutées à ceux d'hier soir, à savoir le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Ce soir, c'est Monaco et donc la Juventus de Turin qui rejoignent les deux équipes madrilènes. L'arrivée du nouveau sélectionneur des Fenech en Algérie, Lucas Alcaraz, a pris la parole et exposé son projet de travail, prise de fonction à 2 mois d'un match officiel de la sélection algérienne. Et puis nous parlerons aussi de Lyon. Lyon qui jouera demain soir à Beşiktaş. Lyon, le club français et le club turc ont été aujourd'hui sanctionnés de 2 ans de suspension avec sursis, et nous parlerons de cette sanction donc avant ce quart de finale retour. Nous en parlerons et bien avec Patrick Juillard. Bonsoir,
bonsoir
Patrick.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Notre confrère de Foot Africa 365 et puis avec Nabil Djellit.
Bonsoir
de France
Annie,
Football.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Nabil. Christophe Jousset, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
À Radio Foot, c'est reparti. Et oui, ils sont là dans le film des Monégasques Supermen, super-héros. L'exploit donc de ces joueurs, de ces jeunes joueurs, on va y revenir, du Rocher qui ont emmené leur équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a donc 7 ans qu'aucun club de Ligue 1 ne s'était qualifié pour ce stade de la compétition. Pour en arriver là, Monaco aura marqué 6 buts à Manchester City et 6 buts au Borussia Dortmund.
Il est à 18 mètres, il approche la frappe, c'est plein axe, attention, c'est quelqu'un qui est lâché, l'ouverture du score de Monaco, Kylian Mbappé. Mbappé qui est dos au mur, remis, puis pour le bar, la tête de Falcao, allez, 2-0 pour Monaco.
Ciboulé sur le côté droit, il va pouvoir centrer de l'extérieur, ça va revenir, le but, le voilà Marco Reus, sur cet exploit d'Ousmane Dembélé. Attention à cette interception de Thomas Lemar qui essaye d'alerter Germain, et c'est le troisième but sur son premier ballon, Valère Germain qui qualifie sans doute l'AS Monaco.
Et voilà pour le score de ce soir. Le score est donc de 3 à 1. 3 buts pour Monaco, un seul pour Dortmund qui, lui aussi, eh bien, ce club aurait dû en marquer beaucoup plus. Il avait voulu rattraper le retard au match aller. Rappelons-le, le Borussia s'était incliné sur le score de 3 à 2. Et on va rejoindre tout de suite Eric Mamrut qui est toujours dans le stade Louis II. Bonsoir Eric.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Racontez-nous, est-ce que c'était la fête un peu dans cette petite enceinte, dans ce petit stade avec seulement 18 000 et quelques spectateurs?
Ça a été la fête très très tôt déjà parce que Mbappé a marqué dès la 3e minute, donc forcément ça démarrait très très bien, même s'il y avait déjà une belle ambiance au coup d'envoi de cette partie. Et dès la 17e en plus, Falcao remet ça avec un deuxième but, donc forcément le Stade Louis II était ravi, même s'il a baissé un petit peu en intensité par la suite, parce que Dortmund dominait, avait la possession de balles, parvenait à réduire la marque par Reus. À ce moment-là, on l'a senti un petit peu calme. Pendant ce temps-là, le cop du BVB, lui, formidable, hein, attitude magnifique, il n'a pas cessé d'encourager son équipe. Et puis, bon, quand il y a eu ce troisième but de Germain, là, forcément, en fin de match, a été l'explosion, le Stade Louis II a chariviré, même si évidemment c'est pas la bombonnée de Buenos Aires ici, c'est pas un chaudron.
Ah, ouais, mais, je vois vos références, Eric.
Oui, c'est marrant, ça me vient tout de suite comme ça. mais on a vu une belle fête, une belle ambiance. Les joueurs sont allés saluer leur public. J'ai même entendu des klaxons là, tout à l'heure aux alentours du stade.
Quelle audace!
C'est la liesse à Monaco.
Ils risquent des grosses amendes à Monaco si
les klaxons de Ferrari,
c'est pas bon. Hein.
Ouais, les Ferrari et Mercedes, tout ça klaxonne.
Oui, sans doute, je ne sais pas vérifier les barres.
Éric, est-ce que notre héros du soir aussi, le placide Leonardo Jardim, a esquissé un sourire ?
Je pense que oui. Je pense qu'il doit être content quand même. Et c'est vrai que c'est un homme qui nous étonne à chaque fois, de plus en plus. Hein. On était un petit peu sceptique au départ, qu'on l'a vu arriver en principauté. Petit à petit, quand même, il marque des points et il montre à quel point il fait des choix payants. Tactiquement, c'était parfaitement joué.
Les changements.
Ce match, non seulement les changements, mais la tactique d'entrée, le pressing très haut pour empêcher les joueurs de Dortmund de déployer leurs attaques, d'enflammer cette partie. Ils n'ont pas du tout été en position attentiste. Ça aurait pu être le cas. Hein. Monaco avait remporté le match aller. Ils auraient pu laisser venir et prendre en contre. Au contraire, ils sont allés chercher les Allemands, les ont pris à la gorge et ils ont mis un but d'entrée. Donc il y a cette tactique-là. Après, le groupe a été parfaitement bien en place tout au long de la partie. Et puis, évidemment, bon, ce qui est le plus spectaculaire, c'est ce coaching gagnant avec l'entrée de Germain qui, dès son premier ballon, marque un but. Bon, évidemment, on peut féliciter Jardim, on peut féliciter Germain. C'est bien joué, mais on ne voit pas d'erreur, en tout cas, du côté de Jardim, ce soir, au niveau de la prestation de l'AS Monaco.
Alors, Eric, dans le paysage de Monaco, il y a ce rocher, évidemment, il y a aussi le casino, le stade Louis II, et puis un personnage emblématique qui représente toute une famille, c'est le prince Albert. Il est le supporter numéro un aussi de ce club depuis fort longtemps. Écoutons-le au micro de nos confrères de beIN Sport, parce que, évidemment, il n'a pas contenu sa joie.
C'est une grande satisfaction, une grande joie, et c'est le travail qui a été accompli par le club, bien sûr, depuis quelques années, et puis surtout avec cet esprit formidable et ces jeunes qui commencent à monter et qui, pas uniquement Kylian Mbappé, les autres aussi, mais je crois qu'il y a un formidable élan et je suis très heureux qu'on puisse contribuer ainsi au renom du football français.
Alors Eric, on va vous laisser aller dans les entrailles du stade pour aller à la rencontre.
Je peux rester encore un petit peu si vous voulez.
Vous avez du temps. Alors avec plaisir. Nabil et Patrick, comment vous avez vu cette performance et cette réussite de Monaco ce soir ?
Bah Annie, il y a un moment il faut
c'est le match parfait.
Il faut dire les choses clairement, ce qu'a réalisé l'AS Monaco est tout simplement fantastique. Fantastique face à une équipe allemande certes qui a été perturbée sur le match aller, ça on ne peut pas l'occulter, c'est une réalité, mais il faut mettre un peu de perspective. C'est le parcours de l'AS Monaco qui est exceptionnel. Je vous pose la question, et moi je n'irai pas plus loin, qui ici, au mois de septembre ou au mois d'août, au moment où jouaient les préliminaires face à Villarreal ou Fenerbahçe, aurait pu dire que l'AS Monaco allait être dans le dernier carré avec le Real Madrid, bon, meilleure équipe européenne de tous les temps, avec la Juventus,
tenant du titre
avec la Juventus de Turin, client incroyable, et enfin l'Atlético Madrid, l'épouvantail du football européen depuis X années. Qui ici aurait pu le dire ?
Et Leicester.
voilà ce qui situe complètement la performance de Monaco. Et Eric a très bien décrit les faits. Moi, les Porsche et les Ferrari, je les ai vus sur le terrain. Voilà, la Ferrari, c'est Mbappé. Voilà, il y a des Ferrari dehors, il y a des Ferrari sur le terrain.
Il n'y a pas que lui, mais dans l'ensemble, la prestation.
C'était une sorte de coup de maître, hein, ce match. Merci, c'était un Patrick. Tour de force.
Non, parce qu'on s'attendait à ce que peut-être Dortmund aille à l'assaut au début et tout, et finalement ça commence tout de suite très fort. Mbappé avant la troisième minute.
On peut dire, on dit parfois sur ce genre de match qu'ils ont marché sur leur adversaire. C'est un peu brutal et vulgaire, mais c'est vraiment ça. Monaco a fait le match parfait. Il n'y a pas eu une couture qui dépassait. Au cordeau, le pressing était énorme et surtout avec toujours la volonté d'écarter énormément sur les ailes pour aller chercher tout de suite les extérieurs et donc libérer de l'espace dans l'axe pour les attaquants très rapides ou pas rapides du tout mais très bien placés comme Falcao. Donc c'était magnifique, c'était un coup de maître. Et surtout, alors on parle d'Mbappé à juste titre, c'est quand même 5 buts sur les 4 matchs de confrontation directe, donc 8e et quart de finale. Et Lemar, 5 passes décisives sur ces mêmes matchs. C'est tout simplement, pour des joueurs aussi jeunes, tout simplement exceptionnel.
À la mi-temps du match, je travaille sur un dossier Mercato. Et puis j'ai eu la chance de parler à Daniel Sanchez, l'ancien entraîneur de Valenciennes, du club africain que connaît très bien Patrick. Et bon, il me faisait un constat à la mi-temps, je vous raconte. Là où lui était impressionné en tant que technicien, c'est la complémentarité au niveau de toutes les lignes entre les joueurs. Tout a été construit de manière intelligente. Mbappé, c'est un style. Falcao à côté, c'est un style. Bon, Fabinho n'était pas là, mais Fabinho plus Bakayoko. La complémentarité entre les lignes. Et là où il était impressionné, lui, c'était dans la récupération. Alors, il m'explique qu'ils sont capables d'aller récupérer haut. Donc, ils vont presser haut. Mais à un moment, ils peuvent décider de se replier et de récupérer bas parce qu'ils l'ont décidé. Dans le même mouvement. Et ce qu'il trouvait impressionnant, et je pense que c'est le cas, c'est la variété du jeu. En fait, la variété du jeu. On voit tout, quasiment tout dans ce qu'ils proposent. Bon, maintenant, ils vont tomber contre des équipes, et je pense qu'on en parlera, on va en parler, des équipes comme la Juve.
Potentiel adversaire.
Qui ont un vice bien plus important que Manchester City ou Dortmund. Ça sera une autre histoire.
Christophe ?
Il y a tellement de choses à dire sur ce match que moi, j'avais entendu dire que les Monégasques étaient un peu dans un creux physiquement.
Honnêtement, que la fatigue
ça,
les menaçait.
C'est pas vraiment vu ce soir.
Ouais, mais il fallait qu'ils marquent vite. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des gens et notamment Daniel Sanchez qui m'expliquait que c'était le scénario parfait parce que s'ils marquent pas vite, ils ont quand même ce coup de barre depuis quelques temps en deuxième mi-temps.
Mais attention, là où c'est très bien joué de la part de Jardim, c'est de mettre une très forte pression d'emblée, d'attaquer le match en cinquième pied au plancher pour marquer en premier et pouvoir laisser le ballon au Borussia. Et à la mi-temps, les statistiques, 67% de possession du Borussia Dortmund, mais 2-0 pour Monaco. C'est vraiment le coup parfait.
Remercions toutefois, et je pense qu'il était peut-être un peu perturbé, Tuchel, d'avoir fait rentrer Dembélé qu'à la 30e minute, parce que moi je suis le président de Dortmund. À la fin du match, je lui demande des explications.
C'est vrai que c'était pas forcément le meilleur choix. C'est vrai que bon, Mbappé, vous disiez exceptionnel, Patrick, c'est tout simplement unique. 18 ans, 5 buts en Ligue des Champions, c'est du jamais vu. Et c'est vrai que Mbappé a brillé dès la troisième minute, que Lemar aussi a été exceptionnel ce soir. N'oublions pas la percée de Benjamin Mendy, qui sur le premier but prend le ballon. Il est servi par Lemar. Ouais. Il prend le ballon sur la ligne médiane et c'est lui qui va décocher la première frappe qui est repoussée par le gardien dans les pieds de Mbappé.
Et quelle lucidité
lucidité
à ce moment-là.
Le sang-froid de Mbappé est phénoménal.
Et Falcao qui va marquer d'un but de la tête pratiquement au ras du sol, donc Falcao, un but aussi.
Rappelons Annie.
Chaque rentrée, chaque match, c'est un but. Ouais. Chaque fois qu'il est titulaire.
Rappelons qu'il était terminé pour le football. Certains observateurs annonçaient qu'il mettrait pas plus de 5 buts et qu'il fallait l'expédier rapidement.
Mais il y avait des raisons aussi
Chine.
À ça, Nabil, notamment ses saisons ratées en
Tout
Angleterre et sa grosse blessure.
C'est absolument juste, mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon pour tout le monde. Ne jamais enterrer un joueur et surtout un attaquant qui fonctionne
Sur le physique, en fait.
Pas forcément sur le physique, mais sur l'aspect confiance. Moi, j'en avais discuté avec un ami qui s'occupe d'attaquants, à proprement dit. Il me dit, les attaquants, c'est la confiance. Alors, ils évoluent dans leur jeu. Prenez l'exemple de Benzema. Il y a 10 ans, il était plus fluide, plus rapide. Cissé, il a dû progresser techniquement. Enfin, dans leur histoire, ils doivent évoluer dans leur jeu. C'est une question très psychologique, les attaquants. Plus que d'autres postes.
Éric Mamrut, la prestation de Dortmund, ils n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas non plus fait la différence, et surtout d'entrée.
Quand vous prenez un but dès la troisième minute, évidemment, ça vous coupe un petit peu les jambes, même s'ils n'ont jamais renoncé. Hein, c'est ça qui était assez valeureux de leur part, c'est qu'ils ont tout le temps tenté, ils n'ont jamais baissé de pied, même psychologiquement, malgré les coups du sort, même mené 2-0, eh bien, ils n'ont jamais cessé d'attaquer et d'y croire. Et ils ont marqué un but, ils auraient peut-être pu en marquer un autre avec ce tir de Sahin sur le poteau. Mais tactiquement, ils ont été pris. On parle souvent de l'attaque monégasque, évidemment, affolante, avec 111 buts marqués Ligue 1 et Ligue des Champions confondus cette saison. Mais la défense est quand même pas mal non plus, parce que ça a bien tenu le choc derrière. Jemerson, Glick, ouais, avec les latéraux, parce que ils ont tout essayé quand même, les Allemands, à droite, à gauche, les centres, les percées.
Aubameyang a essayé.
Et Aubameyang, ils n'ont pas réussi à le trouver, Aubameyang.
Il n'a pas eu un ballon quasiment.
Il a eu une occasion,
une frappe, et puis c'est tout. Ils n'ont pas réussi à le trouver. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'à tous les niveaux, derrière comme devant, ça a été costaud, ça a été fort. Franchement, cette équipe est quand qu'elle veut bien, elle veut beaucoup cette saison. Franchement, c'est assez épatant. Ouais.
Nabil, c'était un choix de Tuchel assez clair qu'il a corrigé très très vite.
Ah bah ouais, il s'est trompé.
De Dembélé, hein, c'est-à-dire qu'il pensait l'économiser.
Bah, je sais pas, il a pas, alors il était pas bon ces derniers temps, paraît-il, ou peut-être qu'il a fait un choix. Bon, après, c'est lui qui est aussi aux entraînements. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas le.
Mais
c'est
lui qui marque.
Faire un procès d'intention, mais on était tous surpris de pas le voir. Vous avez vu le talent. Dembélé, en fait, je pense que même lui ne sait pas s'il est droitier ou il est gaucher. Tellement il est bon des deux pieds. Attends, c'est un avion, hein.
Et il entre à la 27e, hein.
Vous savez qui m'a rappelé, moi, Dembélé ce soir? Il m'a rappelé Atem Ben Arfa.
Ah oui.
C'est vraiment, on a la même sensation d'un joueur insaisissable une fois qu'il est lancé. Et en plus, il finit bien ses actions. Là, le but qu'il offre, là, c'est magnifique. La manière dont d'abord il accélère, il sème un peu ses adversaires. Ensuite, il résiste physiquement au retour de Mendy. Et il faut être costaud pour résister physiquement au retour d'un joueur comme Mendy. Mm-hmm. Et arriver ensuite, après cette course-là, à faire un centre aussi bon, c'est phénoménal, quoi. Moi, ce soir, vous m'avez trouvé chafouin et un peu rabat-joie hier soir, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir ce soir à voir ce Monaco-Borussia Dortmund que hier soir. Hein.
Ouais. Enfin, j'ai aimé aussi hier soir, hein, pour mettre un peu de contradiction. Non, mais le match d'hier soir, on ne va pas en revenir, mais il a été phagocyté par le mauvais arbitrage, donc tout. Mais ça reste un match de très haut niveau avec un score de 4-2 entre deux poids lourds du football continental et un joueur avec 4 ballons d'or qui nous met un hat-trick. Donc il y avait quand même du spectacle.
Christophe,
souligner que Monaco va jouer pour la quatrième fois de son histoire une demi-finale de Ligue des Champions. Vous rappeliez, Annie, que la référence précédente, c'était Lyon en ce qui concerne les clubs de Ligue 1. Et du côté du PSG, on doit regarder tout ça avec beaucoup d'envie et aussi sans doute pas mal de remises en question sur la façon de fonctionner parce que elles sont encore loin pour.
Ils ont pris une double claque le PSG ce soir.
Oui. La Juve qui sur les deux terrains.
Ouais, la Juve qui n'a pas encaissé de but face au Barça parce que secrètement, les supporters du Paris Saint-Germain espéraient peut-être qu'ils en prennent au moins deux pour dire « Ah bah vous avez vu !» Et puis Monaco, le projet monégasque, peut-être avec moins d'argent, avec une philosophie différente et qui est dans le dernier carré.
Et là, c'est d'autant plus méritoire que
le long terme
que là, Lyon était arrivé en 2010 en demi-finale en battant Bordeaux. Bordeaux qui était le champion de France en titre alors que Lyon était à l'époque avait perdu un peu sa série de 7 titres la série de 7 titres consécutifs était terminée et là Monaco est aussi en demi-finale alors qu'ils sont passés par les tours préliminaires et qu'ils ne sont pas champions de France en titre. Donc ça c'est quand même
beaucoup de choses à
c'est
apprendre.
Quand même très fort quoi. Oui.
Eric, pour terminer, les lumières sont déjà éteintes ou ça klaxonne encore?
Ça s'est calmé quand même. Hein.
Ça s'est calmé. La fête est dans les locaux du casino.
Peut-être dans les boîtes
du
de
palais.
Déjà, oui.
Au palais peut-être.
Vous avez un petit after avec les tennismen ce soir, Eric?
Ah, pourquoi pas, c'est une idée. Ouais. Mais il fait froid hein, ici. Il y a un vent glacial qui souffle maintenant. Et bon, ce n'est pas l'image de la Côte d'Azur que l'on a d'habitude.
Ouais, ça doit être le souffle de l'astéroïde qui passe. Ça rafraîchit sur le rocher.
Voilà. Merci beaucoup, Eric Mamrut, d'avoir avec été plaisir. En direct avec Stéphane Burgard. Vous avez pu faire vivre eh bien, ce match à nos auditeurs de RFI sur l'antenne. Et on se retrouve évidemment demain, puisqu'on reviendra dans Radio Foot sur ce match. Merci beaucoup.
Juste une autre petite stat, Annie, sur Mbappé.
Allons-y.
16 buts sur les 16 derniers matchs qu'il a joués, toutes compétitions confondues.
Et je crois que les statistiques pour Falcao étaient les mêmes, c'est-à-dire 26 buts en 26 matchs titulaires. Donc effectivement,
ouais, on peut dire qu'ils sont pas mal.
On attendait leur but d'ailleurs ce soir. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que Monaco, sa moyenne de buts, c'est 3 buts par match depuis le début de la saison. Et on y est quoi.
Ouais, on a retrouvé le tarif du début de saison.
Exactement. On se retrouve dans la deuxième partie de Radio Foot International pour continuer à parler de football. On ira du côté de Barcelone pour voir eh bien, comment est interprétée cette... élimination précoce du club si cher à notre réfé. A tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
deuxième partie. Toujours du sport, mais c'est Radio Foot International que vous retrouvez ici avec nos invités, avec Nabil Djellit et Patrick Juillard, ainsi que Christophe Jousset. Et nous allons évoquer le deuxième match de la soirée, celui qui promettait, qui sait, qu'il se passe quelque chose. Il était nécessaire qu'il y ait beaucoup de buts du côté du Camp Nou, mais il n'y a pas eu de miracle, même pas un but d'ailleurs. Les Barcelonais sont restés muets devant les cages gardées par Gianluigi Buffon. Pas un seul but dans cette remontada qui en aurait réclamé au moins 3, peut-être 5 même, avait osé l'entraîneur de Barcelone. Une remontarem, c'est comme ça qu'un supporter blaugrana l'avait d'ailleurs écrit sur une écharpe, certainement en voulant provoquer les supporters italiens. Ça n'a pas donc marché. La Juventus a été certes dangereuse, mais surtout, elle a défendu, très bien défendu. Et voilà, comme elle sait le faire, résultat, une équipe de Barcelone, du FC Barcelone, déjà éliminée en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors François David, vous êtes en direct avec nous, bonsoir.
Bonsoir Adi, bonsoir à tous.
Alors dites-nous, François David, d'abord, ces Blaugrana, ils ont été malchanceux, mais totalement impuissants.
Bah moi j'ai vu une bonne équipe de Barcelone, beaucoup de cœur dans cette équipe, mais pas beaucoup de réflexion. C'est vrai qu'ils sont projetés vers l'attaque, ils ont tout essayé, beaucoup de centres stériles, une défense de la Juventus à Nice, j'ai jamais vu une défense comme ça. vu du stade, je n'ai jamais vu une défense aussi bien coordonnée, aussi solidaire face au Barça. Et au final, voilà, le Barça qui a une opportunité, je trouve, autour de la 20e minute, 20-25e minute, Messi a une énorme occasion, normalement il la met celle-là, ça aurait pu peut-être tout changer, Buffon était battu, il la met à côté. Dans l'ensemble, on a vu, comme j'ai dit, une bonne équipe du Barça, mais il a manqué beaucoup de précision, quoi, hein, dans le dernier geste, ils se sont procurés les occasions. Mais au final, ça fait encore une élimination, c'est la troisième fois quand même en 4 ans que le Barça perd en quart de finale de Ligue des Champions. Alors, on s'attend peut-être à une révolution, une autre révolution comme il y a 3 ans, quand Luis Enrique était arrivé. Il y a un match hyper important dimanche aussi, c'est le Classico. Donc, cette semaine, le Barça peut tout perdre, que ce soit la Ligue des Champions et la Liga. Et après, écoutez, on verra bien ce que ça va donner dimanche. Moi, ce que je peux retenir aussi de ce match-là, c'est l'appui du public qui a encouragé du début jusqu'à la fin, qui a applaudi ses joueurs dans les 2-3 dernières minutes où le score, bon, on savait que ça allait plus bouger. Et on a vu sortir les drapeaux, il n'y a pas eu un sifflet. Et je pense que les supporters ont valorisé vraiment l'attitude de leurs joueurs ce soir, mais c'était beaucoup trop imprécis. Et je répète, une nouvelle fois, la Juve impressionnante en défense. Il a manqué de précision aussi en attaque, mais en défense, c'est une horloge parfaitement synchronisée.
Oui, on va y revenir, mais certainement que le Barcelone avait surtout raté le match aller du côté de Turin. Ce qu'on a vu quand même aussi, François David, c'était des joueurs très nerveux, non ? Extrêmement, ouais. Souvent, ils se sont dirigés vers l'arbitre, ils ont été le voir, lui parler, comme si à chaque fois, ils se sentaient victimes d'injustice, alors que c'était peut-être pas le cas.
Ça s'appelle de la frustration. Ils savaient très bien qu'ils avaient pratiquement hypothéqué toute leur chance au match aller. Et que ce match-là, c'était... vous savez, tous les journalistes moi, qui m'ont croisé ce soir m'ont dit, les miracles, ça n'existe pas, mais ça existait contre Paris. Parce que c'était Paris. Et ici, ils savaient très bien que la Juventus, c'était pas du même calibre défensif que le PSG. Mmh. Et on l'a vu ce soir. Au niveau de la frustration, oui, on a vu un Luis Suarez mauvais, un des plus mauvais matchs que j'ai vu de Luis Suarez ce soir. Neymar qui a voulu faire la différence à lui tout seul. Donc voilà, beaucoup de cœur, ça on peut pas leur enlever. Le public l'a valorisé à la fin du match, mais très peu d'intelligence finalement face à cette Juventus qui ça se présente maintenant comme l'un des gros favoris de l'épreuve.
Patrick Thuyard.
Oui, tout à fait d'accord avec François sur le statut de favori de la Juve. Moi, je suis impressionné non seulement par la défense, mais aussi par le gardien de but, parce qu'on n'en parle pas assez. Buffon, pour moi, si on devait arrêter le vote aujourd'hui, c'est le ballon d'or de l'année pour l'instant. C'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il faut pas toujours valoriser les attaquants. Ce que fait Buffon à son âge dans le but de cette équipe, qui est quand même très sollicité, parce que
elle accepte souvent de subir le jeu. La Juve, elle joue pas toujours très haut, et ce soir, elle a joué pour, en l'occurrence, très bas. C'est quand même une sacrée performance, hein. Donc, voilà. Et moi, j'apprécie beaucoup quand même la qualité défensive. Un beau geste défensif peut être aussi beau qu'un geste offensif.
Bah, c'était un vrai spectacle.
C'est un ballet,
pour
quoi.
Pour celui qui apprécie le travail défensif, effectivement, les déplacements, la coordination.
Moi, comme j'étais pas bon au foot, je jouais en défense, et donc j'apprécie ce qu'a fait la Juve ce soir.
J'ai pas du tout eu ce problème, moi, parce que comme j'étais assez doué techniquement, j'ai joué devant, et puis j'ai laissé les autres défendre pour moi, et me donner le ballon, et je faisais la différence. Et avec le temps, j'ai pris du poids, donc j'ai reculé sur le terrain. Mais ça, c'est une autre histoire, je crois que ça n'intéresse pas grand monde. Mais
ça regarde pas.
Pour avoir la meilleure équipe du monde, vous prenez la défense de la Juventus, et vous mettez l'attaque du Real ou l'attaque du FC Barcelone.
Monaco, David.
Ou de Monaco, mais bon, je pense qu'il y a un peu plus d'expérience et de vis et de référence du côté de ces deux équipes espagnoles qui, les joueurs, sont là au top depuis une dizaine d'années. Moi, ce que j'ai retenu, c'est 17 tirs du FC Barcelone, un seul cadré. Alors ok, le tournant, c'est certainement cette 18e minute où Messi, d'habitude, effectivement, vous avez raison, François David, il la met au fond, et ça enclenche la machine, ça enclenche la révolte. Mais moi, je vais prendre un peu de perspective, je vais pas revenir sur le match de soir, parce que je pense que de toute façon, ça s'est réglé à l'aller, comme l'a dit François David. Je vois l'échec aussi du recrutement du FC Barcelone. Il y avait de l'argent, ils l'ont pas dépensé à bon escient. Digne, je comprends pas. André Gomez, 35+35, je comprends pas. Palco Alcácer, Banquette, qui arrive de Valence, qui joue jamais, je ne comprends pas. Moi, je veux bien qu'ils préparent une révolution, mais ils ont déjà fait des erreurs.
En tout cas, on a vu, on parlait de la défense et de la révérence peut-être à cette défense italienne. On a vu Messi échanger son maillot avec Bonucci. Donc, c'était peut-être aussi une révérence.
Le meilleur défenseur du monde.
Non, mais il lui a peut-être dit, tu veux pas venir remplacer Umtiti? C'est ça qu'il lui a dit.
Peut-être. Et à travers un maillot.
C'est la vérité.
En tout cas, il y a eu aussi beaucoup de maladresse de la part des joueurs. On parlait de Messi qui rate ce but. François David, comme à l'aller. C'est-à-dire parce qu'à l'aller aussi, le Barça avait beaucoup tenté et finalement avait beaucoup raté. On n'a pas l'habitude.
Beaucoup raté aussi à cause de Buffon. Messi sort une passe, des plus belles passes que j'ai vues dans ma vie au match aller, où il passe six joueurs avec un seul coup de pied qui trouve Iniesta seul devant Buffon. Et Buffon sort peut-être l'arrêt de cette demi-finale. Buffon, je suis complètement d'accord avec Patrick, et vu du stade ce soir, c'est incroyable ce qu'il dégage, cet homme-là. Il dégage une sérénité, il coordonne, et c'est lui qui crie, c'est lui qui organise toute sa défense, il anticipe tous les ballons, et on sent que c'est un mur, quoi. C'est un géant déjà, et on sent que qu'il est très difficile à battre. Il dégage vraiment quelque chose. Lui donner le Ballon d'Or, ce serait une juste récompense, vraiment.
C'est pas fini, mais pour moi, il est bien parti, en tout cas. Cinquième match sans encaisser de but en Ligue des Champions. Ouais. Et la Juve n'a toujours pas pris de but, là.
Ouais, mais enfin, quand t'as Kevin devant toi, c'est pas Mathieu, hein. Excusez-moi, hein. Non, mais je suis un peu dur, mais...
Alors, Umtiti a fait un très bon match. Umtiti a fait un très bon match, mais c'est vrai que les recrues... Alcácer, il est rentré, mais il n'a pas du tout pesé. André Gomez, à chaque fois qu'il joue au Camp Nou, il se fait siffler.
Lui, il pèse sur les nerfs du public, plutôt.
Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand vous disiez Céani, justement, il y avait le directeur sportif du Barça, Robert Fernandez, qui sortait devant moi. Bon, j'aurais pu vous le passer pour que vous auriez pu lui dire deux, trois choses, mais il était assez souriant, comme si, bon, voilà, c'était fait et qu'il fallait passer à autre chose.
On passe à autre chose.
Maintenant. Mais bon, voilà, le Barça est éliminé, mais comme je vous dis, c'est quand même la troisième fois en quatre ans qu'ils sont éliminés en quart de finale, et pour un club comme le Barça, c'est un peu beaucoup.
Et il faut dire à nos auditeurs en un mot, que je sais que ça les passionne, il y en a deux qui ont perdu le Ballon d'Or ce soir et qui n'iront pas le chercher en fin de saison, normalement, c'est Messi et Neymar, la Liga s'est déjà mal embarquée, ils sont sortis en quart de finale de la Ligue des Champions, je vois pas comment ils peuvent être Ballon d'Or.
Christophe?
Messi qui n'a toujours pas marqué contre Buffon, hein, ça reste vrai.
Ça va être noir.
Encore ce soir. Et qui finalement, sur l'ensemble des matchs aller et retour, n'aura pas pesé suffisamment.
D'ailleurs, entre Messi et Buffon, on peut se demander qui va arrêter en premier. Alors que cette question paraît folle, mais bon, vu l'état respectif des deux sur la saison en cours, bon, on peut la poser.
Après Messi, ouais. faut faire attention.
Messi a 29 ans. Messi a 29 ans, il lui reste encore 4-5 ans devant lui.
Hein. Ouais, facile.
On peut pas enterrer un joueur comme ça.
Ah, bah non.
Messi a été le meilleur joueur du Barça au match aller, ouais. Très largement.
Alors, on avait beaucoup vu Paulo Dybala au match aller. C'est vrai que là, sur le match retour, dans un match si disputé côté défense, il a eu moins l'occasion de briller, François.
Non, bah, on l'a pas vu Dybala. On a vu quelques
déviations. On l'a vu sortir.
aussi, oui. Si fait d'ailleurs par le du Camp Nou. Non, Higuaín n'a pas été mal. Higuaín a été assez intelligent.
Il a manqué des choses aussi.
Mais c'est la défense derrière. Vraiment, c'est impressionnant. Bonucci et Chiellini, il a toujours un pied qui traîne, qui dévie le ballon, qui dévie la passe qui pourrait être parfaite.
Oui,
juste ce qu'il faut, c'est exceptionnel.
Ah, bon, on l'avait dit hier ici, François David, on a dit que la défense de la Juve, c'était pas Walt Disney, c'était pas le parc Astérix, en référence à la défense du Paris Saint-Germain, et notamment à Thiago Silva, parce que dès que ça monte, il transpire. Et là, t'as affaire à des guerriers. Oui. Vous avez vu la une
à des champions du monde, hein.
À des journaux italiens. Les mecs, c'est des gladiateurs. Tu serais cru dans les 300. C'est les Spartiates qui débarquent.
Une dernière petite question, François. Vous parlez d'une révolution certainement à l'issue de la saison. Révolution, ça sera quoi? Peut-être du côté du recrutement?
Ah bah oui. Très clairement, je pense qu'ils vont trouver une solution pour André Gomez. Je pense qu'ils vont le vendre. Mascherano aussi vont le vendre, Jérémy Mathieu c'est fini pour lui, je vous dis Paco Alcacer aussi, il va pouvoir rester, il va avoir 4-5 joueurs de très très haut niveau qui vont venir. Alors il rêve de Marco Verratti, le PSG, un joueur qui pourrait donner un petit peu de transmission, mais c'est impossible. Alors je peux vous donner une info si vous voulez en exclusivité qui va sortir je pense assez vite, c'est que le Barça est très intéressé par le milieu de terrain de Nice, Jean-Michel Seri,
l'Ivoirien,
Jean-Michel Seri, qui a un style de jeu très Barça, conservation de balles, très bonne passe, et il y a déjà des contacts qui ont été établis. Donc voilà, vous avez l'exclusivité de cette nouvelle. Seri pourra peut-être rejoindre le Barça. Alors c'est peut-être pas lui qui pourra répondre à l'attente des supporters qui veulent toujours des plus grandes stars, mais on l'a vu comme Umtiti, il y avait quelques hésitations de la part des supporters sur Umtiti. Finalement, c'était la meilleure recrue. Peut-être qu'un avançant va venir, une jeune star. Alors c'est que le Barça rêve de Kylian Mbappé, ça peut être un petit peu cher pour eux cette saison. Un milieu de terrain ou deux devraient venir, et un gros défenseur central. Voilà, en gros, les 4-5 joueurs qui pourraient
travail.
Au Barça l'an prochain, mais avant tout, il faut prolonger Messi. Et c'est toujours pas fait. Donc c'est la priorité absolue pour le Barça.
Oui, au sujet de Jean-Michel Seri, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a déclaré cette semaine dans Nice Matin qu'il ne souhaitait absolument pas le vendre cet été et que bon, il avait tout pour continuer l'aventure à Nice.
Il peut dire ce qu'il veut. Rivière Seri, il veut partir.
Il y a une clause libératoire à 40 millions que le Barça peut payer. Voilà.
Oui, Jean-Michel Seri, qui est sur la liste des 10 joueurs retenus pour obtenir cette année le prix Marc-Vivien Fauré. Merci beaucoup François David, et évidemment on se penchera de nouveau du côté de Barcelone et du Real, puisque il y aura ce match en point d'orgue de la fin de la journée de Liga au cours du week-end. Ça sera dimanche soir. Merci beaucoup François. Voilà donc.
Merci à vous, bonne soirée.
À bientôt. Donc voilà, messieurs, bien nous avons les quatre qualifiés. Hein, le dernier carré avec ces deux équipes de Madrid et puis la Juventus de Turin et donc l'AS Monaco. Le tirage au sort va
vendredi.
Évidemment faire trembler dans certaines chaumières, parce qu'on se demandera sur qui il faut pas tomber.
Pour qui? Pour Monaco?
Oui.
Ah ben, il faut tomber
sur l'Atlético.
Il faut tomber sur l'Atlético, qui a eu quand même quelques difficultés à sortir cette équipe de
Leicester.
De Leicester. Après, quand vous arrivez là, franchement, maintenant c'est la fraîcheur physique aussi qui fait la différence. Et pour Monaco, il faut le rappeler, et Patrick l'avait dit à juste titre, le calendrier est extrêmement serré. Eux, ils n'ont pas préparé un effectif pour être dans le dernier carré. Ils sont peut-être même pas préparés
mais
physiquement
ils ont des jeunes.
Pour être dans le dernier carré.
Des jeunes qui se remettent peut-être
Ce soir, avant le match, ils avaient disputé 10 matchs de plus que le Borussia Dortmund.
Puisqu'ils ont fait les préliminaires.
C'est l'équipe européenne encore engagée en Coupe d'Europe qui a eu le plus de matchs à jouer cette saison. Donc c'est un élément à prendre en compte.
Christophe, une dernière chose.
Moi, je reste sous le choc de la solidité défensive de cette équipe de la Juventus de Turin, dont vous faites votre favori.
Moi, c'est le Real. Hein,
je reste sous le choc des stats, parce que là, ce soir, on en est à 10 matchs depuis le début de la phase de poule, et la Juve a encaissé 2 buts en 10 matchs. Éventuellement, moi, je serais preneur d'un petit Juve Monaco pour
une vraie opposition de style. Ouais. Ça serait beau.
Mais pour Monaco, l'intérêt, je vais vous le dire très sincèrement, c'est qu'il y a un Juve Real et qui joue l'Atlético. Alors, je dis pas qu'ils sont favoris, mais ce sera du 50-50. Mais il faut qu'il y en ait un des deux là qui. Il faut esquiver la Juve et le Real parce que.
Oui, ça c'est sûr.
Je crois que quand même, c'est plus fort. Mais on verra.
Je suis d'accord avec vous.
Alors tirage au sort vendredi à la mi-journée.
Oui. Donc, ce sera très intéressant. On en parlera dans le Café des Sports. Restons sur la scène européenne avec demain soir, eh bien, les derniers matchs de Ligue Europa pour ce qui est de la phase des quarts de finale, donc des matchs retour. Et on va s'intéresser, eh bien, à ce retour entre l'OL et le Beşiktaş. Ça se jouera demain soir en Turquie, dans une ambiance certainement un petit peu tendue, si on se souvient de ce qui s'est passé au match aller, ces incidents qui auraient pu être très, très graves. Et le match avait commencé avec 45 minutes de retard entre Lyonnais et Turcs. Et on le rappelle, c'est Lyon qui s'était imposé. L'UEFA, entre-temps, et la décision est sortie aujourd'hui, avait ouvert une enquête. Elle a édicté des sanctions. Les deux clubs sont frappés donc d'exclusion pour 2 ans, mais avec sursis, ce qui veut dire que la moindre incartade pourrait exclure l'un des deux clubs de toute compétition européenne. Écoutons la première réaction, le premier commentaire, c'est celui du président des Gones, Jean-Michel Aulas.
C'est une décision équitable, parce que même si on a été surpris par la violence de ce que l'on a eu à gérer et à supporter en fait la loi française qui nous est complètement défavorable. Bon, sur le plan de la billetterie, vous savez qu'on sera obligé la prochaine fois de ne pas respecter le droit de vendre à tous ceux qui en font la demande. De la même manière, on fera un certain nombre de fouilles beaucoup plus systématiques. Je pense que les pouvoirs publics nous accompagneront plus parce que les 6 compagnies de CRS face à 20 000 supporters dont plus de 200 venaient d'Allemagne et étaient véritablement très déchaînés, fait que on apprend tous les jours et je pense que on respecte complètement les décisions de l'UEFA.
Alors les décisions de l'UEFA, évidemment, on est obligé de s'y plier. Donc Christophe, la précision, c'est exclusion de toute compétition européenne avec sursis pendant une période probatoire de 2 ans.
Voilà, ils sont sous sursis, sous le coup d'un sursis pendant 2 ans. C'est-à-dire que
ils
dérapent de nouveau, s'il y a de nouveaux incidents dans les 2 ans à venir, et à ce moment-là, le sursis saute et ils sont suspendus pour une session, une saison européenne, quoi.
Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas eu de problème, donc ils vont surveiller avec attention le tirage au sort. C'est pour ça qu'il la joue tranquille, Jean-Michel Aulas.
Parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs de faire appel encore. Hein.
Ouais, parce qu'ils veulent, ce n'est pas des équipes avec des facteurs risques comme ils ont eu Beşiktaş, donc ils ne vont pas jouer Beşiktaş à chaque fois avec les mêmes problématiques. Mais si vous retombez face à la même problématique, il faudra s'organiser différemment. Mieux. Et il l'a dit, et ça, il le reconnaît. Mm-hmm. Et c'est plutôt une bonne chose. Après, je peux vous dire que j'ai eu quelques échos de l'arrivée des Lyonnais en Turquie. Mm-hmm. Donc, de ce que je sais, c'est que c'est hyper sécurisé.
Ils sont effectivement très protégés dans leur hôtel.
Ils ont fermé des autoroutes, tout ça pour que le bus lyonnais puisse passer. Ensuite, les joueurs, par rapport à l'état d'esprit du match, sont quand même inquiets, disons-le comme ça, parce qu'ils vont avoir à faire face à une ambiance qu'ils n'ont jamais connue, parce que c'est une équipe qui est quand même inexpérimentée, où il y a beaucoup de jeunes, et il ne faut pas l'oublier.
Mais en fait, il y a 2 éléments, c'est-à-dire qu'il y a, comme dit Nabil, un contexte et une ambiance bouillante avec des supporters, avec un degré de ferveur et parfois de violence qu'on n'a plus dans des pays comme la France, d'une part.
Mais qu'il y a souvent dans ce pays, en Turquie, et notamment dans les grands derbys, entre Fenerbahçe et Galatasaray, il y a cette ferveur et cette
ça déborde.
Chaleur.
Et en plus, le contexte politique turc actuel avec... Donc on est à quelques jours après le référendum constitutionnel. Le quartier de Beşiktaş, c'est un peu le quartier rebelle, c'est le quartier anarchiste contestataire de Istanbul. Et en plus, on sait qu'en décembre dernier, en décembre 2016, les abords du stade de Beşiktaş avaient été le théâtre d'un attentat. Il y avait eu 38 ou 40 morts, je crois. Et ça, tout ça fait que, sachant qu'en plus l'OL,
Istanbul a été en plus une ville qui a voté plutôt contre voilà. la décision de modification de la Constitution.
Les modifications. Et en plus, Lyon, pendant sa préparation estivale, avait été, s'était trouvé en Turquie pendant la tentative de coup d'État, avait été confiné dans son hôtel pendant une journée. Enfin, c'était, il y a tout un contexte très lourd. Et alors, ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut soit vraiment transcender l'équipe, souder les joueurs et vraiment les pousser à faire corps, soit un petit peu les tétaniser. Et moi, je suis pas trop rassuré quand même. Quoi.
Sur le plan sportif, justement, de ce qu'on avait pu en voir au match aller, est-ce que une des équipes avait véritablement dominé, même si Lyon s'était imposé sur le score de 2-1?
Écoutez, Annie, si on fait un match sur terrain neutre et si on joue 10 matchs, je pense que Lyon en gagne 7. Moi, pour moi, l'équipe lyonnaise est plus forte que l'équipe turque. C'est vrai qu'elle a des lacunes défensives qu'on connaît. En revanche, elle a quand même un pouvoir offensif et un milieu de terrain extrêmement intéressant, mené peut-être par le meilleur lyonnais de la saison, qui est Corentin Tolisso. Ensuite, quand vous avez un Fekir qui est pleine bourre, je rappelle quand même le parcours de cette équipe lyonnaise. Elle a quand même éliminé la Roma, qui est quand même...
Fekir, à l'aller, il n'était pas pleine bourre, franchement. Mais il faut qu'il peut l'être.
C'est-à-dire,
mais...
face à la Roma, c'est lui qui
fait
la diff.
Non, mais face à Beşiktaş, il n'était pas, il était pas dans le coup.
Il a fait un mauvais match, mais quand vous avez un très bon Fekir, un très bon Lacazette, c'est plus fort que ce qu'il y a en face, parce que je veux bien, Talisca, c'est un Brésilien, il a du talent. Quaresma, c'est un intermittent du spectacle. Aboubakar, le champion d'Afrique, il est pas là. Il est suspendu. À valeur réelle, je pense que Lyon, c'est plus fort. Mais il y a tout ce qu'on est en train de dire.
Tout ce contexte.
Voilà, le contexte.
À l'aller, il y avait eu demi-temps très différentes.
Hein. Non, Beşiktaş a fait moi, je trouve que Beşiktaş avait fait un bon match à l'aller. Maintenant, ils n'ont pas tenu la distance et Lyon, à domicile, arrive vraiment à faire des fins de match, à pousser jusqu'au bout. On l'avait vu contre la Roma, on était présent au match avec Nabil. On l'a vu encore contre les Turcs, là, avec une fin de match renversante. À l'extérieur, c'est une autre paire de manches. Et surtout, moi, pour moi, l'erreur fatale de Lyon, c'est d'avoir pris comme renfort au mercato d'hiver un joueur qui ne peuvent pas aligner dans cette compétition, à savoir Memphis Depay. Donc, l'entraîneur ne peut pas construire une équipe sur les deux compétitions. Il doit construire une équipe avec Memphis en Ligue 1 et une équipe sans en Europa League. Donc, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Et je finirai en disant que c'est une erreur de ne pas avoir pris un garçon comme Adebayor cet hiver.
Ouais, mais moi, je suis pas totalement d'accord parce que...
Adebayor qui joue en Turquie.
Offensivement, ils ont quand même assez de cartouches pour faire sans Depay. Il y a Valbuena qui est là.
Oui,
il y a Gezal Sert qui est sur le départ.
Je suis d'accord, mais ça...
Il y a Lacazette, il y a Fekir... Il y a Cornet, il y a quand même assez de joueurs. Il y a juste une question sur la doublure de Lacazette. Mais offensivement, il y a assez de joueurs.
Vous avez raison, mais ça aurait été bien de pouvoir travailler sur les deux.
Mais oui.
Sur les deux compétitions, avec le même effectif sur les deux tableaux.
Depay, tu le recrutes parce que t'as une fenêtre de tir et que c'est le marché qui dicte et tu le prends pour la saison prochaine.
Mais le fait est que ça les handicape un peu.
Mais on a vu qu'en championnat, avec leurs résultats totalement.
Moi, je suis vraiment pas d'accord. Le problème de Lyon, c'est la défense. Je le répète, c'est leur pire saison en défense. C'est pas les gars de devant, c'est vraiment derrière que ça va pas.
Eh ben, on verra ça demain soir avec ce quart de finale, donc Beşiktaş OL qui se jouera du côté d'Istanbul. Lucas Alcaraz a pris pied en Algérie. Le nouveau sélectionneur des Fenech a tenu sa première conférence de presse. C'était aujourd'hui à Alger. Alors l'Espagnol, dont la désignation survenue la semaine dernière avait un peu surpris parce que son nom ne figurait pas en tout cas dans ce qu'on appelle souvent entre nous la shortlist, c'est-à-dire cette liste des favoris. En tout cas, on va y venir. C'est un choix qui correspond quand même à l'organisation de ce nouveau président qui a été élu à la place de Rahawa. Pour l'instant, ce qu'on peut entendre de Lucas Alcaraz, c'est que ce n'est pas un francophone.
Bonjour, je suis très reconnaissant pour cette grande opportunité. Je viens ici pour travailler dur pour le football algérien. Et je ne parle pas encore bien français, mais je vous promets de parler français très bien. Le thème de...
Voilà, après il est repassé vite à l'espagnol, il y a une petite base, mais c'est vrai que parler français c'est essentiel pour parler avec les sélectionnés, les Fenech du moment.
Oui et non, faut parler football parce que à la dernière CAN, il parlait français mais il parlait pas football. Donc vous savez, il parlait belge. Vous savez, il le dit à un moment Alcaraz, c'est Alcazar ou Alcazar,
Alcaraz.
Il le dit à un moment, il a cohabité avec des 15 nationalités dans le même club, ça fait aujourd'hui partie du bien quotidien des joueurs de foot.
Non, notamment... mais c'est une des choses qu'on avait signalé au début, c'est ouais. pour ça. Et d'ailleurs, il s'en est tout de suite expliqué.
Oui. Alors après, en plus, il a dit, alors bon,
que vite il allait l'apprendre,
il allait apprendre et qu'il allait faire des efforts d'intégration. Bon, écoutez, moi, c'est un pari pour la sélection algérienne. On en a déjà parlé ici. C'est un peu un changement culturel. Ils ont envie d'aller plus vers un modèle espagnol. Le CV du garçon, on peut toujours en discuter également. Mais moi,
25 ans d'expérience.
25 ans, docteur en tactique. Bon, bah, c'est vrai que ce qui manque à l'Algérie. Et ce qui a manqué à l'Algérie lors de la dernière CAN, c'est un chef, c'est de remettre de la concurrence, une concurrence saine et un plan de jeu cohérent, ce qu'ils n'ont pas eu depuis un an. Moi, j'ai envie de vous dire, Annie, je ne sais pas ce qui va se passer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être vraiment costaud pour faire pire que les deux sélectionneurs précédents, qui étaient en fait juste des pantins, disons-le clairement. Rajeva qui a un peu payé son autisme, c'est l'histoire de la langue. Et les Kens, ils ne faisaient pas la liste, ils ne faisaient pas l'équipe.
Est-ce que c'est une nouvelle philosophie qui, selon vous, va s'installer au sein des Fenech, Patrick ?
Bah, c'est une nouvelle philosophie. Bon, déjà, moi, ce qui m'a frappé en écoutant cette conférence de presse, c'est qu'il s'inscrivait sur un long terme.
Exactement.
Rajevac, bon, on ne sait pas sur quoi il s'inscrivait.
Bah, personne ne le comprenait.
Et Likens était vraiment là comme un pompier de service. Là, on sent qu'il y a un vrai projet, qu'ils veulent s'installer dans le pays. Et surtout, avec un nouveau président de la Fédération Algérienne de Football, qui est un... directeur de centre de formation, ils veulent aller sur la formation, sur la détection des talents locaux, et ça peut aider la sélection à régénérer la sélection.
Il y a le feu pour la Coupe du Monde quand même, 5 points de retard sur le premier, le Nigeria.
C'est compliqué.
Après deux matchs.
Ouais, mais il y aura un match au mois de mai pour
au mois de juin contre le Togo.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce Radio Foot International. À demain.